au pays des contes. Bonjour à tous. Eh bien, au pays des contes, voici des contes très anciens. Et le premier, c'est un conte persan. Et ceux qui gardent en mémoire les événements du temps passé nous ont raconté que, jadis, vivait à Ispahan un chef de caravane. Depuis de longues années, il conduisait les caravanes du Padisha. Il portait en terre étrangère des marchandises de prix et il en ramenait de plus précieuses encore, ajoutant ainsi richesse sur richesse au trésor de son maître. Un jour d'entre les jours, le malheur s'est dressé sur son chemin, comme il se dresse parfois sur le nôtre. Le malheur s'est dressé sur son chemin et il n'a pas su le contourner. La caravane revenait d'une ville lointaine et la joie du retour rendait la marche plus légère quand subitement, le chameau de tête s'arrêta. Au milieu de la route, un grand chaudron était en train de bouillir. Oh, il n'y avait ni flamme, ni braise dessous, et personne aux alentours. Un chaudron qui bout tout seul en plein désert, ça donne à réfléchir. Et le chef de caravane se sentit le cœur inquiet. Oh, par Allah, se dit-il, c'est là œuvre de sorcière. Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Y toucher est dangereux. Mais le laisser intact est plus dangereux encore. Le mieux, c'est de le détruire. De loin et sans s'en approcher. Et il a appelé ses caravaniers et il leur a dit de briser le chaudron en jetant des pierres à bonne distance. Mais, au premier choc, le chaudron s'est fendu comme un melon trop mûr et un terrifiant vent de sable s'en est échappé, emportant hommes et bêtes dans un tourbillon infernal. Seul, le chef de caravane, agrippé à un rocher, avait résisté à la tornade. Il était sauf, mais que valait sa vie? Dès son retour à Ispahan, le padisha le fit jeter en prison, menaçant de lui couper la tête. Le proverbe dit vrai, le chameau n'a pas de sabots, le riche n'a pas de générosité. Ce caravane bashi avait un fils, Massoud. Il est allé supplier le padisha. Ô grand parmi les grands, mon père t'a toujours servi fidèlement. Pardonne son unique faute. Prends-moi en otage. Confie-moi une caravane et tous tes biens te seront rendus. C'est beaucoup d'audace de ta part, gamin, a dit le padisha. Mais je consens à t'accorder une chance. Tu auras 40 chameaux avec leurs marchandises et tu auras 40 jours pour tenir ta promesse. Si, à l'aube du 41e jour, tu n'es pas de retour, la tête de ton père t'accueillera du haut d'une pique. Oh, Massoud remercia le padisha de ses bontés et le lendemain quitta Ispahan à la tête de 40 chameaux. Il emportait des armes gainées d'or et d'argent, des tapis de Khorasan, de la laine de Shiraz et de l'huile de rose dont chaque goutte vaut un rial d'argent. Ne pensant qu'au jour qui s'écoulait, Massoud pressait la marche de la caravane. Les étapes étaient longues et les haltes brèves. Mais les caravaniers savaient la raison de sa hâte et l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. On dit que le malheur tombe du ciel, mais il peut aussi surgir du fond de la terre. Comme la caravane franchissait une montagne, une forêt de ronces a brusquement poussé sur son chemin, plus haute que le poitrail du chameau. Les ronces étaient hérissées d'épines et si étroitement emmêlées qu'une pierre jetée ne pouvait toucher le sol. L'obstacle paraissait infranchissable. Mais Massoud a dit au caravanier: dans nos balles de marchandises, il y a des sabres et des glaives. Coupons les ronces, ouvrons-nous le chemin. Oh, ce fut long et pénible. Plus dur que le fer, les ronces ébréchaient les armes. Quand un sabre d'argent était émoussé, on le jetait et on prenait un glaive d'or. Ainsi, taillant à droite, tranchant à gauche, la caravane finit par se frayer le chemin. Mais il n'avait pas fait un long chemin qu'un autre malheur survenait. La montagne s'était couverte d'une couche de glace, plus lisse qu'un miroir, plus glissante qu'une planche huilée. Ni homme, ni chameau ne pouvaient marcher dessus sans risquer de tomber dans le précipice. Alors, serrant les dents, Massoud a dit « Ouvrez les ballots de tapis, jetez les tapis sous les pieds des chameaux et avancez ainsi, à mesure. » Et c'est sur des tapis sans prix que la caravane a franchi le piège de glace. En vérité, le roi Salomon lui-même n'a jamais foulé chemin de montagne aussi somptueux. Le soleil était haut dans le ciel et la caravane commençait à descendre l'autre versant quand tout à coup ce fut la nuit. Mais une nuit si dense, si noire, qu'en portant la main à ses yeux, on ne voyait pas ses doigts. Ah, désespéré, Massoud s'est écrié, levant les bras au ciel. Ah, malheur au fils de ma mère! Quel maléfice nous empêche d'avancer! Mais par Allah, je ne céderai pas au sortilège! Et il a crié dans le noir, « Caravanier, vous avez de la laine dans les sacs, vous avez de l'huile de rose dans les jarres. Faites des torches de laine, arrosez-les d'huile et enflammez-les. » Et d'un bout à l'autre de la caravane, des torches se sont allumées. Elles chassaient la nuit et répandaient les senteurs de 100 000 roses. Le parfum en arrivait jusque dans les vallées lointaines. Et les gens se demandaient quel jardin d'Allah embaumait ainsi au cœur de l'hiver. Et la caravane est sortie de la nuit comme on sort d'un souterrain. Et les hommes ont vu que le soleil sur son déclin éclairait la plaine et la ville aussi qui se dressait au loin. Avant de s'en approcher, la caravane a fait halte. Les hommes avaient besoin de repos et Massoud voulait faire le compte des marchandises. Enfin, de ce qu'il en restait et ce que le malheur avait dévoré en route. Hélas, parti avec 40 lourdes charges, il lui restait à peine de quoi charger 10 chameaux. Alors, tandis qu'il méditait tristement, Massoud a vu une vieille femme courbée sous un fagot de bois. En passant devant lui, elle a trébuché et son fagot est tombé. Et la vieille s'est lamentée. « Oh, malheur sur moi, comment vais-je ramasser mon bois ?»« Oh, ne pleure pas, vieille mère, je vais le ramasser, » a dit Massoud. Et comme il se penchait, la vieille le frappa sur la tête avec une petite branche en disant « Tu étais homme, deviens buffle. » Et buffle, il est devenu. « Ah, fils de scorpion !» ricanait la vieille. « Ton père a brisé mon chaudron au maléfice, mais il m'en reste encore assez pour me venger de vous deux. Tu as su éviter les sortilèges que j'ai semés sous tes pas. » Mais tu es quand même tombé entre mes mains. Tu resteras buffle durant 7 ans, 7 mois et 7 jours. Et tu oublieras la parole humaine. » Et la sorcière disparut, laissant Massoud avec son malheur. Alors il a erré au hasard, n'osant pas s'approcher des hommes, ne pouvant s'en éloigner. Puis il a vu une maison près de la rivière et une jeune fille qui puisait de l'eau. Elle semblait surprise de voir ce buffle qui la regardait, comme s'il l'implorait. Car si Massoud était buffle d'apparence, un cœur d'homme battait dans son poitrail d'animal, des pensées d'homme se lisaient dans ses yeux. Et la jeune fille a dit « Es-tu buffle? Es-tu mon frère? Ah, je ne sais pas, mais je vais savoir. Viens !» Et elle a mené le buffle dans un enclos où poussaient des épis. Il y en avait des blonds, il y en avait des noirs. La jeune fille a cueilli une poignée d'épis noirs. Elle en a sorti les graines qu'elle a nouées dans un mouchoir. Puis elle a cueilli des épis blonds et en a tendu les graines au buffle. « Mange, buffle, et que le mauvais s'en aille, que le bon revienne. » Il mangea les graines et sa peau de buffle tomba. Et Massoud, redevenu homme, tendit les mains vers la jeune fille. « Ah, sœur de mon âme, puisse le bonheur submerger ta vie comme la rivière au printemps submerge les rives. Il n'y a pas de mots pour te dire ma reconnaissance. » Mais la soif de vengeance me brûle le cœur. Aussi longtemps que l'ennemi respire, il n'y a pas de paix pour l'offenser. La jeune fille a incliné la tête. Ah, je le sais, mon frère. Mon père, qui a fait le bien toute sa vie, m'a légué ses épis. Les grains blonds dissipent les mauvais charmes, et les grains noirs assouvissent la vengeance. Prends-les et jette-les sur la tête de la sorcière. Alors Massoud a pris les grains noirs et s'en est allé à la ville. Au marché, il l'a vue, la sorcière. Elle allait et venait, ouvrait les portes fermées, fermait les portes ouvertes, jetait du sable dans la farine, versait de la boue dans l'huile. Le bon, elle le rendait mauvais. Et le mauvais, elle le rendait pire. Et personne ne la voyait. Seule Massoud la voyait de ses yeux de vengeance. Il s'est approché et il a jeté les grains noirs sur la tête de la sorcière en disant « Tu étais vieille femme, deviens vieille chienne ». Et chienne galeuse, elle est devenue. Alors Massoud a noué une corde au cou de la chienne et il lui a dit « Et maintenant, fille de Satan, si tu ne veux pas que je te tue à coups de bâton, rends-moi la caravane que tu as volée à mon père. Rends-moi les biens que tes sortilèges m'ont volés. » Et la chienne a mené Massoud vers la caverne où était cachée la caravane perdue, où étaient cachées les marchandises semées par Massoud sur la route. Tout était là, hommes et bêtes, et tous les biens intacts. Massoud a alors ôté la corde du cou de la chienne et il a dit « Va-t'en, chienne galeuse, vieille chienne, ce n'est pas 7 ans, ce n'est pas 77 ans que tu resteras chienne. C'est jusqu'à la fin des temps. » Et la chienne s'est sauvée en hurlant. Plus jamais personne ne l'a revue ni n'en a entendu parler. Alors Massoud a emmené la caravane de son père jusqu'à sa propre caravane. Il a porté toutes ses marchandises au marché et les a vendues en moins d'une journée, tant elles étaient belles. Mais deux choses Massoud a refusé de vendre, bien qu'on lui en offrait autant de pièces d'or que pour tout le reste. Ces deux objets, un châle des Indes d'une beauté insurpassable et une ceinture d'or niellée, comme nulle épouse de Padishah n'en a. Ces objets, oui, vous l'avez deviné, Massoud les a portés en cadeau à la jeune fille qu'il avait délivrée du sortilège. Et puis il s'est hâté de rentrer à Ispahan avec ses deux caravanes pour délivrer son père, pour rendre au Padishah ses biens perdus, pour retrouver la paix dans sa maison et la joie dans son cœur. Et qu'il en soit de même pour vous, amis. Maintenant, croyez-le ou ne le croyez pas, comme vous voudrez. Mais on raconte que vivait au pays de Cachar, c'est une région de la Chine, un garçon tellement scrupuleux, oui, qu'en longeant un champ, il nettoyait la semelle de ses bottes par crainte d'emporter un peu de la terre d'autrui. Il s'appelait Koutlouk. Un jour, passant près d'une rivière, Koutlouk vit une pomme qui dérivait dans le courant. Il repêcha la pomme et il mordit dedans. Il mordit et il s'arrêta. Il s'arrêta et réfléchit. « Oh, ce que je fais est malhonnête, se dit-il. Ce fruit ne m'appartient pas. Je dois rechercher son légitime propriétaire, lui demander pardon et payer le dommage causé. » Ayant décidé ainsi, Koutlouk suivit la rivière en remontant le courant. Il cherchait l'arbre d'où la pomme avait pu tomber, mais aucun pommier ne poussait sur son chemin. Et Koutlouk marcha longtemps, longtemps. La semelle de ses bottes s'amincit et ses vêtements se couvrirent de poussière. Mais enfin, il arriva devant un grand jardin. Un pommier dépassait le mur et ses branches s'inclinaient sur la rivière. Koutlouk frappa à la porte et il dit au serviteur venu ouvrir qu'il voulait voir son maître pour une affaire importante. Le serviteur lui dit d'attendre et il s'éloigna. Eh bien, pendant que Koutlouk attend, suivons le serviteur chez son maître. Le jardin appartenait à Tahir, un homme d'âge et d'expérience. Il avait vécu à la cour du padishah de Cachar et avait épousé une de ses filles. Et Tahir connaissait les hommes comme les connaît celui qui mange le sel des grands. Il avait vu la servilité des courtisans se transformer en morgue arrogante hors des murs du palais. Et son cœur, petit à petit, se remplit d'amertume. Lorsque sa femme mourut, en lui laissant une petite fille, Tahir se retira en province, où il vivait en paix. Il s'était juré de ne donner sa fille qu'à un homme au cœur pur et honnête, fût-il de basse naissance. Apprenant qu'un inconnu souhaitait l'entretenir d'affaires importantes, Tahir sortit dans le jardin. Il vit un jeune homme de bonne apparence, encore que pauvrement vêtu. Après l'avoir salué, Kouteluk lui dit « Vous ne me connaissez pas et pourtant je vous ai lésé. J'ai pêché une pomme dans la rivière qui passe sous votre pommier et j'ai mordu dans ce fruit qui vous appartenait. Oh, ma honte est grande. J'ai fait un long chemin pour vous payer le dommage et implorer votre pardon. » Tahir s'étonna de ces étranges paroles. Il se demandait s'il avait devant lui un pauvre démon ou un habile escroc. Mais Kouteluk n'avait rien d'un fou et sa sincérité se lisait sur son visage. Et le cœur de Tahir battit d'espoir. Si ce garçon était aussi honnête qu'il le prétendait, quel mari rêvé il serait pour sa fille. Fronçant les sourcils, Tahir parla d'un ton courroucé. Tu as commis un acte grave. Je refuse ton argent. Et je te refuse le pardon. Ta faute ne sera pas effacée. Tu en porteras la souillure jusqu'à la fin de tes jours. Kouteluk se jeta à ses pieds, implorant « C'est la première fois de ma vie que j'ai agi malhonnêtement. Ayez pitié, je vous supplie. Infligez-moi tel châtiment qu'il vous plaira, mais délivrez-moi de ma honte. » L'ayant écouté, Tahir dit « Je consens à te pardonner, mais à une condition. Ordonnez, et j'obéirai. Je t'accorderai mon pardon si tu épouses ma fille. » Kouteluk sursauta. « Mais c'est impossible. Comment me marierai-je sans aimer celle qui sera ma femme ?»« À ta guise, » dit froidement Tahir. « Je garde ma fille, garde ta honte. » En vain, Kouteluk essayait de raisonner, de supplier. Tahir se montrait inflexible. « Réfléchis, » dit-il. « Peut-être aimeras-tu ma fille quand tu la connaîtras. Oh, elle ne manque pas de qualité. Certes, elle n'est pas jolie, mais la beauté passe. » Et les qualités restent. Elle est aveugle et muette, mais de cette façon, elle ne verra pas tes défauts et tu ne l'entendras jamais gronder et se plaindre. Il est vrai qu'elle n'a pas de jambes, mais c'est un grand avantage. Tu seras sûr de la trouver toujours à la maison. Kouteluk était au désespoir. Il dit, baissant la tête, lourde était ma faute et lourd le châtiment. Qu'il en soit selon votre désir. J'épouserai votre fille. Mais sachez que je suis pauvre et n'apporterai dans votre maison que moi-même et ma bonne volonté. Oh, je ne demande rien d'autre, dit Tahir. C'est bien. Tu es pardonné et ta faute est effacée. Bon, pars maintenant. Le mariage sera célébré à la fin de cette lune. Tiendras-tu ta promesse ? J'en fais le serment. Au jour convenu, Kouteluk se rendit chez Tahir et attendit, avec angoisse, le moment de rencontrer sa fiancée. Elle tardait à paraître et c'est seulement à minuit que s'ouvrit la porte de la chambre où Kouteluk se tenait seul. Et une jeune fille entra. Oh, elle était plus belle qu'un rêve de joie, plus svelte qu'un peuplier. Ses yeux brillaient comme des étoiles noires. Ses nattes tombaient jusqu'à ses pieds, menus. Elle salua Kouteluk d'une voix plus mélodieuse que le chant d'une source. « Qui es-tu ? » demanda Kouteluk, ébloui. « Mon nom est Aïgouli. Je suis ta fiancée, » répondit la jeune fille. « Oh non, tu te trompes. Ma fiancée, la fille du maître de cette maison, est aveugle et muette et elle n'a pas de jambes. » Oh, surprise, Aïgouli secoua la tête. « Mais Tahir, mon père, est le maître de cette maison. Je suis sa fille unique et il n'a jamais eu d'enfant infirme. Alors Kouteluk se cacha le visage dans ses mains et se mit à pleurer amèrement. Encore plus surprise, Aïgouli demanda « Mais pourquoi te désoler ainsi ? Est-ce que je te déplais ?» Mais non, mon cœur me le dit. Tu es fait pour moi et je suis faite pour toi. Ah, Kouteluk leva les yeux pleins de larmes. Je suis désespérée parce que je t'ai aimée au premier regard. Je pleure parce que jamais tu ne seras ma femme. J'ai fait serment d'épouser une fille aveugle, muette et sans jambes. Je ne peux en épouser une autre. Ton père m'a menti, mais une promesse, même obtenue par tromperie, reste promesse et me lie à jamais. Caché derrière la porte, Tahir avait tout entendu. Il entra dans la chambre et il dit « Il n'y a pas eu mensonge, il n'y a pas eu tromperie. J'ai dit que ma fille était aveugle et muette et cela signifiait qu'elle n'avait jamais vu un homme, jamais adressé la parole à un homme autre que son père. Et j'ai dit qu'elle n'avait pas de jambes parce qu'elle n'a jamais franchi le seuil de cette maison. » Mais vous avez dit qu'elle n'était pas jolie, protesta Kouteluk. Et la lune, en son 14e jour, est moins belle qu'Aïgouli. Alors Tahir a souri. Je suis heureux de voir que ma fille te plaît. Mais si tu avais connu sa mère, ma femme, tu trouverais Aïgouli simplement agréable. Alors Kouteluk tendit les bras vers Aïgouli. Oh, la plus ravissante des fleurs, la plus précieuse des perles. Tu as dit vrai. Je suis fait pour toi, comme tu es faite pour moi, désormais et jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi que l'honnête Kouteluk épousa la belle Aïgouli. Et ils vécurent longtemps, cœur près du cœur, âme près de l'âme, embellissant de joie les vieux jours de Tahir. Eh bien, laissons-les à leur bonheur. Voici maintenant un conte Thaï. Et au temps d'avant, au commencement des choses, quand le corbeau était blanc et le fleuve Mennam un simple ruisseau, le tigre n'était pas ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire le seigneur de la forêt. Oh, sa force, le tigre l'avait déjà. Mais pour ce qui est de l'intelligence, on le disait plus sot que le crocodile qui pourtant n'est pas une lumière. Même les buffles se moquaient du tigre, c'est tout dire. Avec ça, maladroit comme il n'est pas permis. En poursuivant le gibier, il se cognait aux arbres, tombait dans les trous, s'entortillait dans les lianes. Oh, les singes en mouraient de rire, mais ce qui rendait le tigre furieux et très malheureux. C'est le crapaud qui est venu à son aide. Le crapaud est un sage et ses conseils sont bons à suivre. Et il a dit au tigre « Tu devrais être le plus redouté des animaux et te voilà la risée de la jungle. Ce qui te manque, c'est juste un peu de savoir. Demande donc au chat de te prendre en apprentissage. On le dit très habile. Et de plus, je crois qu'il est de tes parents. » « Ouais, a grogné le tigre, on est cousins. » Alors il acceptera certainement de te donner quelques leçons. Et flatté d'avoir un pareil élève, le chat ne demandait pas mieux. Et le tigre est devenu son disciple. Un disciple, on sait quels sont ses devoirs. Faire tout ce que le maître ordonne et ne rien dire qui puisse lui déplaire. Pendant 3 longues années, le tigre a fait le ménage, la cuisine et les courses du chat. Oh, quand le maître parlait, il écoutait respectueusement et quand le chat se reposait, il le grattait derrière l'oreille. Il faut dire qu'en retour, le chat prenait son rôle d'éducateur au sérieux et il lui inculquait le savoir à longueur de journée. Le tigre ne pouvait faire un pas sans un rappel à l'ordre. « Veux-tu rentrer tes griffes ? D'abord ça les use et ensuite ça fait du bruit. » L'approche silencieuse est la première loi du bon chasseur. Ou bien, lèche ton nez. Plus souvent que ça, le nez doit rester propre et froid pour bien sentir les odeurs intéressantes. Même pendant les repas, la leçon continuait. Couche tes oreilles quand tu manges. Comme ça, tu entendras mieux la venue d'un danger. Et puis, lave-toi soigneusement. Ton odeur ne doit pas te trahir. Une stricte propreté garantit le succès à la chasse. Et ainsi de suite, jour après jour, 3 années durant. Oh, le tigre était sot, mais c'était un élève très appliqué. Il ne comprenait pas toujours pourquoi il fallait faire comme ceci et non comme cela, mais il obéissait aveuglément au chat et il s'en trouvait bien. Bah, tellement bien qu'à la fin de ses études, si son intelligence laissait toujours à désirer, son savoir-faire égalait presque celui du maître. Ah, ce qui a fini par inquiéter le chat. Réfléchissons, se disait-il, le tigre est 10 fois plus grand et plus fort que moi. Il est maintenant très adroit, trop adroit. Je lui ai appris 100 ruses et 1000 astuces dont il n'avait aucune idée. Avec sa force et son peu de cervelle, ce grand dadais risque de devenir dangereux. Ça va pas du tout. Il est urgent que je prenne des mesures. Ah, fort bien, mais comment ? Il est très difficile de faire entrer une idée dans un crâne obtus. Mais une fois qu'elle s'y est logée, impossible de l'en faire sortir. Ce que le tigre avait appris, il le savait à tout jamais. Son maître n'y pouvait rien. Mais faites confiance au chat. Il n'avait pas dit son dernier mot. Quand, au bout de 3 années... son apprentissage terminé, le tigre est venu apporter à son maître les offrandes de reconnaissance. Le chat a dit « Seul le disciple qui surpasse son maître fait honneur au maître. Je vais te faire subir une dernière épreuve. Tu vois ce grand pin ? Nous allons grimper au sommet, à qui montera plus vite. Si tu as bien profité de mon enseignement, je ne pourrai pas te distancer. Allons-y. 1, 2, 3. Oh, en un clin d'œil, le chat s'est retrouvé au sommet de l'arbre. Mais pas seul. Le tigre était arrivé en même temps que lui. Très bien, a dit le chat, très très bien. Et maintenant, voyons qui descendra plus vite. Hop ! Et le chat a sauté sur le sol. Sans hésiter un instant, le tigre a sauté aussi. Seulement voilà. Alors que le chat atterrissait en souplesse et retombait mollement sur ses pattes, le lourd tigre tombait comme un sac de plomb et restait étourdi par le choc. Quand le tigre a repris ses esprits, son maître n'était plus là. Prudent, le chat avait quitté la forêt. Et tandis que geignant et boitillant, son élève le cherchait partout, le chat filait vers le village le plus proche. Il redoutait la rancune du tigre et il avait décidé de vivre désormais avec les hommes. Oh, le chat n'a pas perdu au change. Il mène chez les hommes une vie douillette et insouciante. On le nourrit, on le soigne. Ou s'il fait encore la chasse aux souris, bon, c'est uniquement par plaisir. Et dans la maison, il a la meilleure place près du foyer. Les hommes lui passent même certaines habitudes regrettables. Souvenirs de sa vie sauvage. Le chat peut tout se permettre. Plumer le perroquet dans sa cage, pêcher les poissons rouges du bassin, griffer l'enfant de la maison. Les gens crient un peu et ils pardonnent, par reconnaissance. Parce que plus jamais, le tigre n'a essayé de grimper aux arbres. Le souvenir de sa première tentative est resté si cuisant qu'il a légué à sa descendance la sainte horreur de pareilles escalades. Cela fait que l'homme, poursuivi par un tigre, n'a qu'à grimper dans un arbre pour se trouver à l'abri. Voilà pourquoi les hommes acceptent, sans se fâcher, tous les caprices, toutes les brimades du chat. C'est leur façon de le remercier, d'avoir, dans sa sagesse, gardé pour lui l'essentiel de sa science. L'art de tomber d'une grande hauteur sans se faire de mal. Pour aujourd'hui, pour une nouvelle récolte de contes. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.